RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG vous saluent, c'est parti, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en direct, bonjour Olivier Truchot.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules.
Aujourd'hui dans les GG, le trio est composé de Monsieur Mourad Boudjelal, éditeur de bande dessinée et président du Hier Football Club, qualifié en Coupe de France.
Affirmatif, on en avait parlé la dernière fois, et bien c'est fait.
Et tu joues contre qui alors la prochaine?
L'Olympique de Marseille.
Match de gala.
Ouais, ça va me faire de la peine. Parce que
vous êtes bien... le petit pousset.
Ouais, j'aime bien cette équipe de l'Olympique de Marseille, donc ça va me faire de la peine, mais bon.
Et Elina Dumont est avec nous, intervenante sociale. Bonjour ma chère Elina.
Eh bonjour, et moi aussi je suis présidente des Oubliés de la République. Vous en entendrez parler en 2023.
Et puis Thomas Porcher, professeur d'économie, est avec nous. Bonjour mon cher Thomas.
Oui, bonjour, salut.
Tu vas la fermer.
Déjà, ça commence.
Tu vas la fermer.
Alors, non, pourquoi est-ce que vous entendez ce « tu vas la fermer » ? Parce que c'est ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, séance nocturne, débat plutôt mouvementé au moment où on parlait de la réintégration des soignants non vaccinés.
Oui, c'est un député de Guadeloupe qui dit voilà, ça.
Un député ultramarin, on va vous montrer la séquence.
Tu vas la fermer.
Ah non, non, c'est pas possible. Monsieur Serva, non, chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour 5 minutes. Pas possible.
Il va la fermer sa gueule.
Génial. Pour ceux qui n'ont pas vu sur leur story, c'est la réaction de celle qui préside l'Assemblée et qui est complètement atterrée par ce qui s'est passé. Est-ce que ça vous choque que ce député qui visiblement était agacé parce qu'il était interrompu, il défendait la réintégration des personnes non vaccinées à l'hôpital, est-ce que ça vous choque le tu vas fermer?
Si des gens qui sont députés n'arrivent pas à s'écouter, faire preuve de politesse vis-à-vis des gens qui ne sont pas d'accord avec eux, il y a un vrai problème là. Là, on a l'impression que c'est une... Enfin, quelle image ça donne? On dirait une classe incontrôlable d'élèves de quatrième. On
comporte pas comme ou les bancs de la faculté.
Non, la faculté, ils sont même plus polis que ce que l'on voit là. Hein.
Ouais.
Oh, ouais, on voit jamais des choses comme ça dans le supérieur.
Et Thomas, moi, tu sais ce qui m'a choqué le plus? Parce que j'ai écouté les personnes qui l'ont excusé. Oui, vous savez, on est là toute la nuit, tout le jour, on n'arrête pas. Alors je me suis dit, si eux ils sont comme ça, alors c'est quand même des députés, ils pourraient avoir de la distance, ils pourraient dire autre chose que fermer là. Alors t'imagines les gens du peuple, qui eux sont à...
Bien sûr.
Alors eux, ils prennent le fusil et tuent tout le monde, quoi.
Voilà, c'est ça.
Tu vois?
Moi, j'invite tous nos députés à regarder les grandes gueules, qui est un exemple d'émission où on s'écoute.
On ne se coupe jamais la parole.
Voilà. Et la deuxième chose, moi, ce qui m'inquiète le plus, surtout, c'est que je ne sais pas si vous avez vu ce député, que je ne connaissais pas, je pense qu'il est prêt à lui en mettre une. Quand on voit sa tête, heureusement,
ouais,
c'est pas aller plus loin. Quoi.
Moi, j'ai envie de le défendre, ce député de Guadeloupe. Sincèrement, c'est insupportable quand tu prends la parole. C'est un peu comme dans les grandes gueules, quand t'es interrompu tout le temps. Il était peut-être effectivement fatigué. C'est pas des machines non plus. C'est humain.
Oui, c'est pas lui qu'on critique. C'est l'ambiance générale.
Voilà, l'ambiance générale.
Je vois
les réactions outrées de la majorité. Je vois ce qu'a TFDO. Les autres disent, oh là là, comme si le type avait assassiné ses parents. Non, il a dit simplement, ferme-la parce qu'il était excédé. C'est humain. Et à la limite, moi, ça le rend plutôt sympathique.
Oui. Mais il faut un jour, et j'invite tous les Français, parce que c'est possible de le faire, il faut un jour assister à une séance de l'Assemblée nationale.
Ouais, je l'ai déjà fait.
Une séance de questions de gouvernement. Bien. Parce qu'on a l'impression que l'hémicycle est très grand. Or, c'est petit.
Ouais, c'est...
577 députés, ils sont les uns à côté des autres. Et ils se coupent constamment la parole.
Et on entend tout.
Oui, on entend tout.
Les insultes et tout ça.
Voilà. Et donc, quand tu veux prendre la parole pour défendre quelque chose et que systématiquement 20, 15, 30, 50 fois, on te coupe la parole, au bout d'un moment, on t'en peut plus parce que t'es là, tu représentes la nation, tu représentes la France, tu appelles à de le
tuer. Apparemment, ils ont failli en venir aux mains aussi.
Oui, mais souvent.
Alors, ça, non, bien sûr.
Là, c'est quand même grave.
Bien sûr, bien sûr. Grave.
Ouais, ça pourrait arriver.
Un jour dans les GG.
Dans les GG, c'est déjà arrivé, mais dans l'ambiance.
Du coup, hier, parce que sur le fond, quand même, hier, ça a été une journée difficile pour les Insoumis, parce que c'était, vous savez, la journée des niches parlementaires. Donc, c'est l'opposition qui a le droit de présenter des propositions de loi. Et ils en ont présenté deux, et les deux ont été retoqués. Enfin, ça n'a même pas été jusqu'au bout. La corrida, ils ont été obligés de la retirer. Et la réintégration des personnes vaccinées. Ce qui s'est passé à l'Assemblée, en fait, c'est une journée pour rien.
Ouais. Allez, on va partir sur notre premier sujet de discussion. Le Black Friday. Ces opérations promotion dont vous entendez venir des États-Unis, vous entendez des pubs partout, y compris sur RMC, RMC Story. Bon, on vous bombarde de publicité. Mais là, on est dans une période compliquée, difficile pour l'inflation. Est-ce que pour vous, le Black Friday est devenu indispensable pour faire de bonnes affaires? 32-16 pour le dire aux grandes gueules.
RMC, les grandes gueules.
Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Oui, gris, c'est gris.
Oui, le Black Friday, c'est ce vendredi 25 novembre. C'est la période de promotion que l'on dit la plus alléchante de l'année, avec parfois des moins 70%. Sur certains produits, donc comme disait l'autre, c'est la période à ne pas laisser passer.
Oui, mais souviens-toi, les années précédentes, on disait que le Black Friday, c'était le symbole de la surconsommation. Et là, on voit quand même que les choses ont un peu changé, parce qu'en ces temps de vie chère, d'inflation, etc., bah, c'est surtout incontournable le Black Friday pour faire des bonnes affaires avant les fêtes. D'ailleurs, plus de la moitié des Français envisageaient, avant que ça démarre aujourd'hui, d'acheter lors de ce Black Friday, de ce vendredi de la conso. D'ailleurs, c'est même plus vraiment un seul vendredi, parce que c'est toute la semaine. Je sais pas si vous avez vu, il y a de la pub depuis une semaine.
C'est samedi. Donc c'est Black Week.
Le Black Friday est devenu une Black Week. Alors, bon, c'est vrai qu'on fait des bonnes affaires. Et en même temps, il y a aussi quand même les associations écolo qui disent c'est quand même une journée noire pour l'environnement, pour les droits humains. Il y a d'ailleurs un collectif qui a lancé le Green Friday. Pour qu'on achète écolo, éthique, peut-être des produits de seconde main. Alors, est-ce que de quel côté êtes-vous? Est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui indispensable ou au contraire, il faudrait ne pas succomber à cette journée de consommation?
Monsieur le prof d'éco, Monsieur Porcher, est-ce que tu vas faire des achats, toi? Franchement.
Un pull, peut-être?
Non. Pourquoi?
Non, il est très bien, ton pull. Un pull, ça serait pour vanner.
Un pull, ça serait pas super
chaud. Fabriqué en France. Hein.
Non, mais Thomas.
Ou des baskets, parce que je sais que t'aimes bien les sneakers.
Non. La tentation est toujours là pour ceux qui aiment se faire plaisir. Non, mais c'est vrai, la tentation est là. Mais après, moi, j'essaie de faire attention, d'acheter toujours des... Moi, j'achète uniquement que chez des gens que je connais, où je connais, on va dire, la fabrication de l'amont à Laval. Donc, j'achète dans... Il y a deux marques que je connais très bien. Enfin, une qui s'appelle Holo. Bon, c'est la marque de mon cousin, mais qui a bien...
C'est mon cousin,
mais il fabrique au Portugal, dans une entreprise familiale, certaines choses un peu en France. Enfin, voilà, c'est...
Donc moi, il peut pas te les offrir, ton cousin.
Non, mais je cible, ça me fait plaisir. Je cible quand même des marques.
C'est éthique,
ça.
Voilà.
Et c'est éthique. Et lui, mais alors attention, les marques comme ça ne peuvent pas se permettre de faire le Black Friday parce qu'ils ont déjà, des marges qui sont plutôt faibles. En fait, ceux qui font le Black Friday, c'est souvent les grosses marques qui font de la fast fashion, qui produisent dans des conditions sociales et environnementales à l'autre bout du monde et qui gonflent les prix pour gonfler leurs marges hors solde et qui là peuvent se permettre de faire des moins 70%. Tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça. Les petits ne peuvent pas se permettre de faire ça. Donc le Black Friday sur tous les biens de consommation, on va dire, futiles, moi, je suis plutôt contre.
Tu es plutôt contre le Black Friday?
Bien sûr, parce qu'il y a tout un tas de besoins qui sont futiles et qui sont inutiles. Enfin, si c'est pour aller dévaliser, s'acheter le énième jean H&M à moins 70 ou Zara à moins 70, ça sert à rien. Il y a un impact environnemental et social qui est très fort. Mais après, sur d'autres biens de consommation, c'est peut-être l'occasion pour certains de s'acheter, je sais pas moi, un four à micro-ondes qui fonctionne plus ou un électroménager qui va plus fonctionner. Sur l'alimentaire, si c'est mis en place, c'est utile. En ce moment, il faut le dire aussi. Hein. Donc, faut pas non plus.
Faut pas cracher.
Tu vas pas critiquer. Enfin, moi, je pense que le Black Friday devrait être ciblé sur certains biens et pas ratisser large. Voilà.
Monsieur Mourad.
Bon, d'abord, on n'a pas attendu les Américains pour inventer les soldes.
Là, c'est les super soldes.
Ouais, les super soldes, comme les super héros. Ce sont les inventeurs des super héros, donc ils ont inventé les super soldes.
Bah, c'est une journée de soldes déguisés.
C'est une journée de soldes déguisés. Non, moi, je voudrais plutôt voir ça du côté des commerçants. Je veux dire, aujourd'hui, bon, il faut pas rêver. Les produits qui vont être soldés sont soit des produits qui vont se périmer dans le temps et que les commerçants ont en stock. Mmh. C'est une façon de quelque part de faire de la trésorerie. Quitte même, je pense pour certains, de pas respecter la loi sur le dumping parce qu'ils ont besoin de trésorerie et qu'ils vont plutôt échanger, quitte à perte, échanger des actifs quelque part contre de la trésorerie. Et puis pour le reste, ce qui va être soldé, c'est ce qui se vend pas. Je veux dire, il y a pas un commerçant qui va solder un article qui se vend très bien à 100 euros et qui va le mettre à 50 euros. Il faut pas rêver. Voilà, il faut juste pas rêver. Bon, après, si ça peut faire du bien aux commerçants, tant mieux, parce qu'ils ont besoin d'être trésorés par les temps qui courent. Je vous rappelle que quand on est commerçant, il y a deux axes d'achat. Il y a celui où on achète en ferme, c'est-à-dire que les produits qu'on a achetés, on doit les garder, même si on les vend pas. Et dans ce cas-là, ils peuvent se périmer ou pas. Donc là, il y aura des soldes en fonction assez variables. Puis ensuite, il y a des produits qu'on peut retourner. Et les produits qu'on peut retourner ne seront pas soldés, ça c'est clair, parce qu'ils préféreront les retourner au prix d'achat que les solder en dessous du prix d'achat. Bon, je pense que c'est une bonne opération pour les commerçants. Et puis, par les temps qui courent, effectivement, il doit y avoir quelques bonnes affaires à faire. Mais je ne comprends pas que ça puisse déchaîner ses passions. Je veux dire, moi, j'ai envie de dire, il y en aura pour tout le monde, quoi.
Ouais, mais c'est pas les petits commerçants. Je veux dire vraiment, ce truc a été porté très fortement par les très grosses enseignes.
Et par Amazon et par, bien sûr.
Mais voilà.
C'est du déstockage.
Et voilà, exactement.
C'est du déstockage.
Elina.
Alors, moi déjà, je voudrais vous dire un truc.
C'est les bonnes affaires pour les pauvres, quoi, beaucoup d'argent aussi.
Ce matin, je me réveille et l'écran de mon portable est noir. Vous le croyez, ça?
Il est peut-être cassé, non?
Mais non, il n'est pas cassé, il est tout neuf.
Ah, c'est Black Friday.
Mais ça veut dire que...
Il est programmé pour s'arrêter le jour de Black Friday.
Non, mais c'est
bien ciblé.
Je peux vous le montrer tout à l'heure pendant la pub. Non, bon, voilà ce que je voulais dire. Moi, honnêtement, pour moi, ce n'est pas indispensable. Alors, évidemment, pour toutes les personnes qui me connaissent un peu, évidemment, moi, je reviens de loin. Donc, vous imaginez bien que moi...
Que tu as été SDF, ouais, tu as été dans la rue, tu as été craqueuse.
Et que je continue, et que je continue de travailler. Mais moi, en tout cas... Pour moi, c'est pas indispensable. Par rapport aux produits.
Pour les petits budgets, si, c'est indispensable.
Non, mais pour les petits budgets. Mais tu sais, quand t'as un petit budget, tu sais, moi, je peux te dire, la première chose que les gens veulent payer, c'est leur loyer, leur électricité.
Oui, bien sûr.
Oui, mais ça dépend à quel niveau tu mets le seuil.
Bien sûr,
Mélina,
il y a des gens, par exemple, qui avaient besoin d'acheter quelque chose de précis et qui attendent précisément aujourd'hui pour le faire en pensant qu'ils l'auront moins cher.
Je te coupe une seconde. Il n'y a pas de Black Friday chez Total et chez Esso. Quand tu fais le plein dans la bagnole.
Si, il a risqué. C'était le Black Friday.
Aujourd'hui, tu n'auras pas de Black Friday sur le sens.
Et moi qui adore, excusez-moi, mais j'adore tout ce qui est crème et tout ça. Enfin, j'aime bien. Voilà, quoi. Et je voulais te dire que...
Tu les achètes, t'en profites ou pas aujourd'hui?
Alors attends, écoute, bien sûr, je vais y aller cet après-midi. Attends, écoute. Ouais, mais maintenant, moi, je suis passé, j'ai plus un petit budget comme quand j'étais... maintenant, je fais partie des gens normaux comme vous. Enfin, non, je paye, je gagne moins cher que vous. Comme... Bon, bref, qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais tu vois, par exemple, je suis allé à la parapharmacie où ils ont un rayon de produits de beauté extraordinaire. Eh ben non, les coffrets qui vendent je parle mal anglais,
en Black Friday.
C'est pas des trucs qui vont périmer, hein. C'est des trucs tout neufs.
Non, parce qu'ils ont besoin de trésorerie. Ils ont besoin de trésorerie.
Non, mais c'est
pourquoi c'est au consommateur d'être malin.
C'est pour ça que.
Et tu disais, ton expression, c'était quoi? C'était pas indispensable.
Ce que je veux dire.
Même pour les petits budgets.
Moi, j'arrive à comprendre ces gens, comme tu as dit, qui attendent les soldes, le Black Friday, se faire un même
achat. Tu dois t'acheter une télé ou un ordinateur.
Et même un achat plaisir, un pack de crème. Enfin, tu vois, je veux dire.
J'en ai marre la culpabilisation permanente.
Voilà, exactement. Et là, je te rejoins là-dessus. C'est-à-dire que moi, je connais beaucoup de gens, comme tu dis, qui vont aller dans une parapharmacie, qui vont avoir un moins 50% sur un ensemble de crèmes, et ça va être leur achat plaisir. Et ils se font plaisir, et heureusement que le Black Friday est là pour leur faire plaisir. Après, on peut pas s'empêcher là, c'est mon côté un peu prof, là. Mais moi, là, je suis d'accord avec toi. Et après, quand on élève un petit peu le truc, le Black Friday, c'est un truc qui est tenu par les grands groupes de fast fashion qui produisent dans des conditions sociales détestables et environnementales détestables à l'autre bout du monde. Et que là, il va falloir vraiment s'attaquer à ça. Voilà, mais s'attaquer via les gens.
Ça veut dire quoi s'attaquer à ça?
Faire en sorte.
S'attaquer à la fabrication ou s'attaquer à les empêcher de le faire, le Black Friday?
On les a vus naître, ces grands groupes. Je veux dire, moi, on les a vus arriver dans les années 90, les Zara. T'en souviens?
Oui, bien sûr.
Quand on était jeunes,
c'était une révolution.
On achetait un 501, on le gardait un peu plus longtemps. Voilà, ils sont arrivés, ça a été une révolution. Mais maintenant, il faut comprendre que cette révolution, c'est fini pour des raisons environnementales.
Olivier et Thomas, moi, je voudrais vous dire. Bon, j'habite Paris, excusez-moi pour les provinciaux, mais je peux vous assurer que moi qui vais que dans les magasins des marques, dans les farfouilles, dans les magasins où on fait de la recyclerie, mais moi je vais toujours dans les magasins, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, de seconde main,
et ça me coûte.
Bien sûr.
Je fais toujours des affaires, c'est ça que je veux dire.
Les Français le font de plus en plus, d'ailleurs. Le problème, c'est le textile qui va très mal, pourquoi Camailleux, tout ça, ça tombe? Parce que les gens achètent de moins en moins de vêtements neufs.
Par exemple.
Avenue Secrète, rue des Marques, où il y a des démarques,
je peux acheter du Zara.
Donc il y a déjà quand même une révolution en la matière, vers le seconde main.
Non, mais il y a sûrement de bonnes affaires à faire, mais uniquement chez des commerçants en difficulté.
Pascal, bonjour.
Bonjour, bonjour à tout le monde.
Pascal,
bonjour.
Des Pyrénées-Orientales, donc vous allez en profiter de cette célébration du Black Friday là.
Non, je vais pas en profiter dans la mesure où, alors si toutefois économiquement on peut comprendre les gens qui en profitent et qui veulent en profiter sur plaisir. Moi, ce qui me fout en l'air, c'est que on se rend compte sur ce genre d'opération à quel point on se fait détruire le reste de l'année. Quand on voit certaines remises qu'on peut avoir sur des produits, qui le reste de l'année, on se fait toute l'année, on se fait dilater. Il n'y a pas d'autre mot, quoi.
Ah oui, ils marchent comme des fous, quoi.
Voilà, il y a des grands groupes genre Nike. Voilà, mon fils, il a 17 ans, il veut des Nike Air Force, je sais pas quoi, machin, qui valent 150 balles. Là, vous pouvez les avoir à 60 balles. Ils se foutent de notre poire, quoi. Alors, c'est plus ça, en fait, moi, qui me fout en l'air. Autant je peux comprendre les revenus modestes, etc., attendre la bonne affaire, autant c'est tout le reste qui est autour qui est...
Ouais, mais vous, Pascal, vous savez ce que dit Jacques Maillot, qu'on salue ? Il a toujours dit, le vrai prix, c'est le prix soldé.
Ouais, mais c'est
le vrai prix du produit, c'est le prix que vous avez aujourd'hui.
Et moi, je suis commercial, donc je sais ce que c'est aussi de vendre des choses, etc., etc. Donc, à un moment donné, c'est plus, en fait, on fait croire aux gens qui font une méga bonne affaire. Pour le reste de l'année, on va dire, bon, les gars, vous pouvez vous faire avoir tout le reste de l'année. Il y a au moins une journée, vous pouvez en profiter. C'est plus ça, en fait, qui est dérangeant.
Mais Pascal, il a raison, Pascal. Très franchement, vous n'en profitez pas à ce moment-là pour acheter petites choses?
Absolument pas, non. Autant on peut acheter deux, trois bêtises pour faire plaisir à Noël. Mais c'est la puissance des grands groupes, parce qu'en général, on va pas taper sur les petits commerçants, mais les grands groupes qui vous font croire que vous faites une bonne affaire, alors que tout le reste de l'année, vous achetez toujours des Nike et des Adidas et des machins.
Vous plaidez pour le fait d'acheter aujourd'hui, alors, puisque si aujourd'hui on a le vrai prix.
Je plaide pas pour ça. C'est la manière dont c'est fait. On vous fait croire que vous faites une bonne affaire. C'est ça qui m'énerve. Alors que vous payez le reste de l'année, vous ne payez pas le juste prix. Et il y a aussi des revenus modestes qui, j'en connais quelques-uns dans mon entourage, qui vont s'endetter aujourd'hui pour faire des soins.
Ah oui, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, surtout, faites pas de folie.
Donc l'un dans l'autre, eux ils sont contents, ils ont vendu leur marque et tout va bien. Et d'un autre côté, des ménages qui sont peut-être précaires en disant on va peut-être faire une bonne affaire pour Noël, pour ceci, pour cela, parce que vu qu'en France en ce moment tout est gratuit et pas cher, donc tout va bien, et qui vont s'endetter encore un peu plus. C'est plus ça qui est dérangeant.
Je comprends ce sentiment de se dire toute l'année je me fais blouser.
C'est l'optimisation fiscale pour les grands groupes, c'est-à-dire que ils sont simplement en train de modifier des actifs en termes bilanciels sur lesquels ils devront payer de l'impôt en espèces sonnantes et trébuchantes avec lesquelles il sera beaucoup plus facile et agréable de payer de l'impôt.
Merci.
C'est l'optimisation fiscale.
Merci à Pascal d'avoir été avec nous. Je souhaite une bonne journée, Pascal. Des Pyrénées-Orientales, à bientôt. On va continuer la discussion dans un instant. Des Pyrénées-Orientales, devinez où on va aller?
Dans le sud.
Dans les Pyrénées-Atlantiques.
Ah. Oh là là.
Voyage.
Mais c'est pas tout à fait pareil.
C'est pas les mêmes, c'est pas la même mentalité. Les gens se détestent entre l'Atlantique.
Je sais pas qui sont les plus sympas. Est-ce que c'est les orientaux ou le côté atlantique?
Eh bien, nous demanderons à Paul après avoir eu Pascal. Il est commerçant lui aussi. Black Friday, on verra s'il succombe ou pas, s'il le fait ou pas. Indispensable ou inutile, c'est la discussion qu'on a dans les GG, dans les grandes gueules.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Avec les GG et avec vous au 32-16, avec Thomas Porcher, professeur d'économie, Elina Dumont, intervenante sociale, et avec Mourad Boudjela, l'éditeur de bande dessinée. On parle du Black Friday. On est bombardé de pubs depuis de longues semaines déjà, une pub annonciatrice. Et c'est vrai qu'on est dans une période compliquée au niveau du pouvoir d'achat. Et finalement, c'est peut-être le moment de faire vraiment, vraiment de très bonnes affaires. Paul, bonjour.
Bonjour.
Paul des Pyrénées-Atlantiques, donc après les Pyrénées-Orientales. Est-ce que vous allez y succomber? Est-ce que vous le faites, vous, en tant que commerçant? Dites-moi.
Mais on est un petit peu obligé de le faire, parce que si on ne le fait pas, ben on passe un peu pour des peintres, si on peut dire gentiment.
Des pingres.
Ouais, des pingres aussi, surtout. Et en fait, nous, on le fait effectivement, comme disait Mourad, justement, c'est qu'on va essayer de vider un petit peu les produits que l'on veut plus faire ou qui vont se périmer. Moi, j'ai pas de péremption sur mes produits, mais...
Vous vendez quoi?
Des parfums.
D'accord.
Je suis parfumeur indépendant. Mmh. Et en fait, nous, on fait face à une concurrence qui est énorme. C'est que des grands groupes, c'est des Sephora, c'est des Nocibé,
c'est
des Galeries Lafayette. Et si on le fait pas, ben, on aura personne. Et nous, du coup, on perd de la marge, par contre. Et ça, en fait, Black Friday, c'est à un mois de Noël. Pour nous, c'est hyper mauvais parce que derrière, ben, on perd de la marge, on perd du chiffre. Mmh. Et Noël, normalement, nous, on fait, ben, c'est notre plus gros mois, hein, ça représente 5 mois d'activité.
Bien sûr.
Si si on ne travaille pas là, ben on est mort.
Donc en fait, si je vous comprends bien, vous êtes plutôt contre le Black Friday. Vous êtes obligé de suivre parce que sinon il y a personne dans votre magasin aujourd'hui. Mais à la limite, s'il n'y a pas le Black Friday, ça serait mieux.
Ben c'est à cause des gros groupes.
Et c'est à cause des gros groupes. Et c'est surtout c'est pas notre culture. C'est ça vient d'Amérique et à la base, c'est fait pour l'électroménager. C'est pas
au début.
Au début, c'est ça. On se l'est adapté à nous, à notre sauce. Mais d'ailleurs, ça dure plus un jour, ça dure trois semaines.
Mais en fait, pardon, mais Paul, c'est une nouvelle période de soldes, moi j'ai l'impression. D'ailleurs, les soldes ne marchent plus. Les soldes ne marchent plus en janvier et en juillet, on le sait. Et là, maintenant, les soldes, c'est au mois de novembre, fin novembre.
Effectivement, mais alors, quand vous regardez les 3J, par exemple, des Galeries Lafayette, ça dure trois semaines.
Oui.
Et ça, c'est tout au long de l'année. Donc, il y a tout le temps des offres. Donc, à un moment donné, il faut se poser aussi la bonne question, c'est quand est-ce que les Galeries Lafayette, par exemple, font du bon prix?
Quand c'est soldé.
Nous, on est au bon prix toute l'année.
Voilà.
C'est-à-dire, vous avez quoi comme marge?
Vous êtes plus cher?
Vous avez quoi comme marge?
Non, on fait un coefficient de 2, c'est un taux de marge à 40%. Si, par exemple, j'en sais rien, je vous fais moins de 40%, je suis à mon prix de revient. Ouais. Il faut que je paye la TVA.
S'il n'a pas le même volume, etc.
Même en dessous, parce que vous n'avez pas payé aux charges fixes.
Exactement.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, dans votre magasin, il y a tous les produits qui sont aujourd'hui dans votre magasin sont moins chers qu'hier?
Ah non, ils ont augmenté.
Non, mais par rapport
à aujourd'hui.
À aujourd'hui. Est-ce que vous avez fait.
Tout.
Voilà, non, donc j'avais sélectionné.
Oui, il a dit.
Mais tous, ils sélectionnent. Tous les magasins sélectionnent.
Je suis obligé, sinon je suis mort. À un moment donné, il faut que je paye mes enfants, il faut que je paye mes loyers.
Bien sûr. Et là, vous êtes obligé de tenir face à la concurrence et d'aller jusqu'à Noël, quoi, en plus.
Exactement. Donc on est obligé de le faire, on le fait.
Il va faire un peu de trésor, quand même.
Paul, je voulais vous poser une question. Paul, c'est Elina. Le Black Friday, c'est pas la première fois que vous le faites?
Alors cette année, moi, c'est la première fois.
Ah d'accord, je ne peux pas vous poser la question.
J'étais absolument contre, parce que c'est contre nature, en fait. C'est contre notre métier.
Ouais. Mais voilà,
autre chose, mais là, je l'ai fait parce que tout le monde nous le demande. Donc à un moment donné,
c'est vrai que le Black Friday, il faudrait que ce soit une journée où on paye tout au Black. Là, par contre, ça pourrait être intéressant pour les commerçants.
Mais même pas Mourad, parce que maintenant, ça se fait plus du Black. On peut plus.
Le Black, il n'y a plus. Mourad, c'est l'ancien temps.
En liquide. Non, mais il faudrait le faire à ce moment-là sur, par exemple, trois jours donnés et terminé, quoi. Tandis que là, c'est allé
bien. Un jour exceptionnel.
C'est ça, mais c'est incontrôlable. On va contrôler tout ça.
Oui, mais Paul. On ne contrôle pas le prix en France.
Oui, mais Paul, vous l'avez dit au départ, c'est que ça vient des États-Unis. Et aux États-Unis, au départ, c'était les prix cassé pour l'électroménager, où effectivement on pouvait s'acheter des machines à laver, etc.
Mais là,
vraiment.
C'était des bonnes opérations. Je trouve que ça, c'était bien pour
tout le monde. Là, c'est ouvert à tous les produits, donc c'est devenu une journée de solde. On peut acheter des vêtements moins chers, du parfum moins cher, tout. Quoi.
Exactement.
Mais heureusement que ça ne vient pas d'Afrique, on aurait parlé de grand remplacement.
Vous avez raison, Paul. Merci d'avoir été avec nous. Merci Paul.
C'est un commerçant qui est contraint, en fait.
Là, c'est intéressant. Parce que là, on a un petit commerçant et on voit bien, encore une fois, comme le petit est toujours obligé de s'ajuster finalement à ce que fait le gros. Alors le gros là, c'est des grosses opérations, il est content, il liquide, il a beaucoup de stock. Puis souvent les gros ils sont présents dans le monde entier, ils peuvent faire de l'optimisation fiscale, ce que lui ne peut pas faire, ainsi de suite. Donc là, il y a vraiment une concurrence de David contre Goliath. C'est ça qui est compliqué en fait. Et lui, il est obligé de suivre. Au début, il refusait de le faire, mais comme la marque
donc
de
personne
cousin,
à voir, là.
Voilà, et là il est obligé de le faire et c'est plus un jour, c'est trois jours et puis il dit maintenant ça va être. Puis après, ça va être une semaine.
C'est déjà une semaine quasiment.
À un mois de Noël. Oui, mais la majorité de nos chiffres.
Ne vous trompez pas, ça a pris, en termes de marketing, ça a pris un tel poids qu'il y a les grandes enseignes fabriquent des produits spécialement pour le Black Friday.
Voilà.
Qui n'existaient pas avant, mais uniquement quand ils étaient conçus dès le départ pour pouvoir être à prix très bas, pour donner l'impression de faire de très grosses soldes pour le Black Friday.
Thibaut Ringo est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Fondateur du collectif Green Friday. C'est-à-dire qu'on a bien compris que vous êtes plutôt sur le versant écologique et qui dénonce l'aberration du Black Friday. C'est une aberration écologique, ce Black Friday, Thibaut ?
Ah oui, bien sûr. Pour nous, c'est une vraie aberration. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on surépuise la planète. On sollicite toutes les ressources. Il faut savoir que on consomme 60% de plus de vêtements qu'il y a 15 ans, alors qu'ils durent deux fois moins longtemps. Alors qu'il faut 10 millilitres d'eau pour produire un jean.
Combien ?
10 millilitres d'eau pour produire un jean. Les Français changent 80% des Français changent de téléphone alors que leur téléphone fonctionne encore. Alors
vous êtes pour le naturisme?
Pardon?
Vous êtes pour le naturisme?
Non.
Il faut bien s'habiller.
Oui.
Alors, il faut bien s'habiller, mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'acheter des produits, des t-shirts, par exemple, remisés à 5 euros, qui sont quasiment jetables, alors qu'en face, on peut acheter un t-shirt de bonne qualité, fabriqué en France, en coton bio, qui va durer beaucoup plus longtemps.
Et qui sera beaucoup plus cher.
Qui sera beaucoup plus cher, mais c'est vrai que c'est la question que le consommateur doit se poser.
Celui qui a les moyens, il se la pose.
Non, mais en fait, là où il dit quelque chose de vrai, c'est est-ce qu'il vaut mieux un t-shirt un peu plus cher de bonne qualité que 5 t-shirts qui reviennent au même prix qu'on achète
il me semble que c'est un choix personnel.
Thomas, Moi je te dis, tous les gens en sont conscients. Vous parlez de choix, mais il y a des gens, ils n'ont pas le choix.
Oui, bien d'accord.
Parce que déjà, vous-même, vous le dites dans les émissions, il y a des personnes, des auditeurs qui vous appellent, qui choisissent entre manger ou s'échauffer. Tu penses bien qu'entre acheter un t-shirt chinois ou un t-shirt français, le choix est fait.
Ouais, on est d'accord, bien sûr.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce qu'il y a des moments où on n'a pas vraiment le choix. Par contre, je pense qu'on achète beaucoup de produits dont on n'a pas besoin. Et c'est vrai que le vrai problème...
Oui, c'est votre avis, quoi. Je veux dire,
je suis tout à fait d'accord. Moi, je vous parle de l'impact sur l'homme et la planète. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, combien de personnes vont faire des achats dont ils n'ont pas vraiment besoin? Et je pense qu'en termes de pouvoir d'achat aussi, il faut se poser la vraie question, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ce produit? On a des besoins, bien sûr, on est tout à fait conscient qu'il y a un sujet de pouvoir d'achat. Par contre, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout acheter? Et est-ce qu'on pense aussi au coût social et environnemental de tous les achats qui vont être faits pour le Black Friday? Je pense qu'il faut aussi comprendre ce qui se passe derrière.
Mais coût social, parce que c'est quand même des gens aussi qui vont vivre de ça.
Je ne suis pas persuadé que ce qui se passe en France...
Attendez. Thibaut.
Est-ce que vous savez ce qui se passe? En fait, c'est important quand même. Le Black Friday, c'est un symbole de surconsommation et de surproduction. Nous, on parle de Black Friday, on parle de Black Friday Week en Chine. On parle surtout de saison noire. La saison noire où il va falloir produire à un rythme effréné tout ce qui va être vendu le jour du Black Friday. Alors qu'encore une fois, est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter tout ça?
Je vous invite à aller contester en Chine.
Là où je rejoins Thibaut.
On est sur une écologie punitive sur la France, alors que c'est pas la France.
S'il y a pas d'acheteurs, il y a pas de producteurs.
Thibaut, il a raison sur toute la ligne. Mais il y a une chose, moi, en fait, c'est s'interroger sur le consommateur. Et moi, je pense que le consommateur, en fait, il a une marge de manœuvre, et pour les plus pauvres, très très faible. En fait, il faut taper sur l'offre. Le problème, c'est la façon dont on produit aujourd'hui. C'est là le vrai problème. C'est après, le consommateur, la marge de manœuvre est faible. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent toujours il faut que le consommateur se responsabilise. Il faut qu'il fasse ci. Mais en fait,
produire au moins cher.
Aujourd'hui, il y a des marques de vêtements qui sont capables de vous mettre comme publicité n'achetez plus de vêtements. Ils savent très bien qu'il n'y a aucun risque. Parce que finalement, les marges d'adaptation du consommateur sont en fait extrêmement faibles. C'est une petite élite de personnes qui arrivent à s'adapter. Pour les autres, quand il y a un solde, un prix moins cher, etc., les affects, on va dire, de la consommation sont là. Donc il faut, c'est l'offre, c'est la réorganisation de la production.
Qui réorganise ça?
Écoute, c'est le politique. On a vécu, Alain, nous, on est encore en vie, on a toute une vie. Il y a une partie de notre vie, on a vécu où on fabriquait les vêtements à trois en France. Moi, je vois dans des fripes des vêtements de Tex, de Carrefour, qui étaient fabriqués en France. C'était comme ça avant. À partir des années 80, on a commencé à délocaliser. Maintenant, mais attendez. Vous savez quand même qu'il y a un pays, l'Éthiopie, qui s'est dit, pour parler comme les jeunes, qu'il allait plier le game sur le textile, parce que le textile est en Asie. Comment il plie le game? Il paye ses ouvrières 25 dollars par mois. Et c'est majoritairement des femmes. Et là, les premiers qui sont venus s'installer, c'est H&M et Calvin Klein, en trouvant ça super. Ben moi, je trouve que ça, c'est pas super. Donc la production, à un moment, elle a été en France, dans des conditions, et vous l'avez vécu cette période-là. Aujourd'hui, elle est délocalisée, elle se fait dans des conditions sociales et environnementales horribles. On peut revenir là-dessus, puisqu'on a eu une période où ça existait déjà. Tu vois. Donc c'est ça qu'il faut dénoncer.
Thomas.
Moi, je pense qu'il y a un vrai effort à faire, à la fois côté, en effet, marque, mais aussi côté consommateur. Le consommateur doit aussi montrer qu'il ne veut plus cautionner...
Mais le consommateur, il a des idées qui sont devenues très fortes. Ceux qui doivent faire des efforts, ils ont des moyens.
Laissez Thibaut.
Thibaut finit sa phrase, allez-y. Thibaut.
Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un vrai effort des deux côtés à faire. C'est-à-dire que les marques, d'un côté... doivent produire d'une autre manière et doivent arrêter de tromper le consommateur en lui faisant croire qu'il fait une bonne affaire alors qu'en fait ils augmentent leur prix toute l'année. Parce qu'encore une fois, on parlait des promotions tout à l'heure. Si on fait des promotions toute l'année, c'est qu'il y a un moment le vrai prix qu'on pratique n'est pas le bon. Donc ça, je pense que c'est un point important.
Vendre moins cher, c'est mauvais pour la planète.
Oui, mais Thibaut, qui est coupable? Allez, si on devait choisir un coupable, les marques ou le consommateur?
Les deux.
Non.
Je pense que c'est j'attends la réponse, le système global qui ne fonctionne pas. Je pense que les marques ont incité le consommateur à croire qu'il faisait de bonnes affaires avec des prix remisés. Le consommateur achète à prix remisé. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a une déformation complète.
Pour aller dans le sens de Thibaut, pardon, je coupe Thibaut, mais regarde dans nos placards, on a la moitié des vêtements qu'on ne met jamais, bien entendu.
C'est un gag.
On s'est finalement inventé des besoins.
C'est un gag.
On a 25 t-shirts.
Toi et moi, on a beaucoup de futilité parce qu'on fait partie des 10% des revenus. Je parle des revenus les plus riches à peu près. Tu sais, quand tu gagnes plus de 4000 euros, tu es dans les 7% les plus riches en revenus. Donc ces gens-là, c'est pas, tu vois, peuvent se permettre des futilités.
Mais c'est eux qui comptent surconsommer. On parle de quoi? On parle des surconsommateurs. Mais le débat, il porte sur quoi? Sur la surconsommation. Donc je parle des surconsommateurs. Bien sûr, je parle pas des gens qui n'ont pas d'argent et qui consomment pas. Sinon, il n'y a pas de débat et on passe à autre chose. Là, on parle du Black Friday, des gens qui vont surconsommer. Bien entendu, quand on regarde son placard, qui a la moitié des vêtements qu'on ne met jamais, il a raison, Thibaut. Ça doit faire réfléchir. Moi, je veux bien parce que Thomas, oui, les grandes marques. On est tous responsables de ce qui se passe. Il n'y a pas d'un côté les méchants et de l'autre les gentils.
Juste,
on est dans le système et ce système aussi on le favorise.
Merci.
Il faut qu'on édite un règlement des achats, ce qu'on a le droit d'acheter, de pas acheter. Le temps que
tu as
acheté un t-shirt en janvier, tu ne pourras plus en acheter un autre avant le mois de mai.
Tu me fais rêver.
Non mais on est parti là-dessus. Et surtout, ce qui est insupportable, c'est qu'on a l'impression que ce qui se passe en France, ça va impacter le monde entier.
Mais quand tu dis les consommateurs,
arrêter l'écologie, arrêter de nous faire culpabiliser. Voilà.
Quand on dit les consommateurs, mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens de consommer, qui ont des marges de manœuvre très faibles, qui bavent sur des paires de Nike, et qui au Black Friday vont aller consommer. Il y a quelqu'un qui va leur dire attention, tu es méchant, tu consommes un bien, alors qu'on leur offre, on les fait baver tout le temps.
Ton exemple sur l'Éthiopie,
qui ont 18 paires de Nike et qui vont profiter du Black Friday, et c'est eux effectivement qui doivent s'interroger sur le fait, est-ce qu'ils ont besoin
de ce que je dis. Thomas, ton exemple sur l'Éthiopie. Tu as ta boîte, d'accord? Demain, le t-shirt, ici, il te coûte 5 euros à fabriquer. En Éthiopie, il te coûte 0,50. Et t'as l'URSSAF au cul, et t'as le fisc au cul, et t'as tes salaires à payer en fin de mois, et t'as tes charges à payer. Tu fais quoi?
Mourad, les nouveaux jeunes qui montent des marques de vêtements.
Tu penses à la planète ou tu penses à ton bilan?
Eh ben, je vais te dire, les marques aujourd'hui qui fonctionnent, les marques qui fonctionnent bien, ce sont des marques aujourd'hui qui refusent ça.
Mais parce qu'elles sont dans des niches fiscales, bien sûr.
Ce sont des niches avec une clientèle qui aura les moyens d'acheter ça, bien sûr.
Ça a changé. Les nouvelles générations, moi je vois notamment mes enfants, les grands, ils vont beaucoup dans la seconde main. Le site, comment il s'appelle?
Vinted,
cartonne. Le site Vinted cartonne, par exemple. Je pense qu'ils ont une conscience écologique, n'a pas le droit, par exemple. Ouais. Et je pense que c'est en train de changer.
Et je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est que même la classe moyenne fait attention maintenant.
Bien sûr.
Il n'y a pas que les pauvres.
Parce que la classe moyenne, elle est devenue classe moins que moyenne.
Merci à Thibaut Ringaud de Green Friday d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué aussi.
Plaisir d'avoir un Beatles ce matin.
L'aberration écologique qui représente pour lui
J'aimerais bien que les écolos nous décrivent le monde tel qu'ils le voient pour qu'on sache un peu ce qu'ils veulent.
Alors, le Black Friday est-il devenu indispensable, oui ou non? Non.
72%. Impressionnant.
En fait,
c'est vous qui avez voté. Dites donc, puisqu'on est dans la période des achats et des cadeaux que l'on peut faire.
Du sort là.
Regarde. Vous connaissez le champagne, la cuvée des grandes gueules, les
magnifique.
Amis.
C'est magnifique.
Ouais, ça nous a été offert hier par la famille Faniel et fils.
Ah non, ça c'est en champagne.
Et c'est en vente nulle part.
Des Mehdi qui avait racheté.
Alors si Faniel, ils vendent du champagne. Ils en sont à 3 ou 4 générations de vignerons, mais pas avec l'étiquette.
Là, c'est une cuvée pour nous faire plaisir parce que c'est un auditeur des GG.
Exclusive. On le remercie.
Est-ce qu'on peut la boire?
Il est pas frais. Ouais, donc
on va le mettre de côté. Plus tard, Olivier.
Donc c'est merci, c'est avec plaisir et modération.
Oui, voilà.
Bien sûr.
Mais modération, l'attend, il n'y est pas souvent.
Merci.
En attendant, vous voyez, c'est l'heure de la pause. Donc la petite bouteille d'eau, les GG vont se rincer le gosier.
Ça, c'est éthique.
Et se désaltérer.
Non, c'est en plastique.
Non, c'est une bouteille en plastique, c'est pas éthique.
Allez, les écolos vont se rincer.
Non, parce qu'on rappelle que personne ne boit d'alcool, tu sais, comme dans les inconnus. Oui. On ne boit pas d'alcool et on ne fume
jamais. Tiens, tout à l'heure, notre sujet de discussion de 10 heures, le crack. Parce qu'on a beaucoup focalisé sur Paris, ce qui se passe au nord de Paris.
Sans transition.
À l'est de Paris. Mais non, le crack aujourd'hui, on le trouve dans des villes. Lille, Perpignan, Compiègne. Mâcon, et je vous en citerai d'autres, des villes. Le crack, c'est la drogue, le nouveau danger pour nos villes.
Niort,
venez en parler avec nous. Orléans, au 32-16.
Tu vas la fermer.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, notre trio de GG, Mourad Boudjella, l'éditeur de bande dessinée, président du Hier Football Club, qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France.
On est tous derrière toi.
Face, ouais, bien, surtout contre Marseille. L'être jusqu'en mai. Hein.
Face à l'OM et bientôt le Stade de France.
Ouais, ça serait une finale face à Paris.
Ouais.
Ouais, ouais. Face au PSG.
Ouais, face au Stade de France. Si on joue une finale face au PSG, je promets de faire le tour du plateau à Paul.
Alors, j'ai entendu.
Donc, voilà, ouais, on est tranquille.
Elina Dumont, intervenante sociale, est avec nous, tout comme Thomas Porcher, qui est professeur d'économie. Et il me semble qu'à cette heure-ci, on peut y aller pour le on s'en fout pas, le OSEF, comme on dit dans le jargon.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Avec notre productrice Anaïs Sainz. Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Les GG, rendez les armes. Va falloir sortir vos FAMAS M16 et AK-47 planqués sous le lit. Jusqu'au 2 décembre, les possesseurs d'une arme détenue illégalement sont appelés à la rendre ou à les rendre et de régulariser la situation auprès des points de collecte mis en place par le ministère de l'Intérieur. 300 sites au total en France. Souvent, il s'agit d'héritages, de vieilles armes de famille. Les couteaux, les machettes, les poignards sont aussi acceptés. 2 millions d'armes qui appartenaient à des personnes décédées ne sont pas enregistrées et entre 5 et 6 millions d'armes sont détenues irrégulièrement en France, cette opération du ministère. Alors, les Français vont s'en foutre ou pas, les GG ? Thomas ?
On s'en fout pas.
On s'en fout pas, Mourad ?
Ah, mais je m'en fous, puis j'ai pas tout compris, donc... Non, mais je le dis parce que j'ai pas...
Moi, je m'en fous.
Bon, Thomas ?
Je m'en fous pas parce que là...
Parce que t'as des armes chez toi.
Non, j'ai pas d'armes, et les chiffres que tu nous as donnés, ça fait quand même peur. Là,
5 à 6 millions
donc,
d'armes. Et
donc, rien que de savoir ça, je pensais pas qu'il y avait autant d'armes en circulation, donc non, on s'en fout pas, c'est important de savoir ça. Ouais.
Mais est-ce que ceux qui détiennent des armes vont répondre à cet appel ?
Ils vont pas le faire forcément.
Pardon, mais quand t'as un fusil, excuse-moi, mais moi c'est pas mon cas, mais si c'est un fusil qui a été légué par le grand-oncle, le grand-père, est-ce que c'est un problème de garder ça chez
soi ? Quand t'habites un peu isolé aussi dans une maison, bon.
Remarque, l'affaire Ligonnès, c'est comme ça que ça s'est passé. Son père est mort, il a récupéré le fusil, après il a tué toute la famille.
T'as raison, non mais c'est vrai, c'est sûr que c'est une tentation.
Les GG, vous regardez un match de la Coupe du Monde au Qatar dans un bar, il y a de l'ambiance, des buts, de la bière, et puis d'un coup, plus de télé. Eh bien, c'est peut-être la faute de militants anti-mondiales qui s'amusent à éteindre des télévisions dans des bars parisiens à l'aide d'une télécommande pirate. Vous savez, ces télécommandes universelles là qui marchent sur toutes les télés. Il y a même des tutos sur Internet qui vous expliquent comment fabriquer une télécommande brouilleuse d'ondes pour couper, je cite, la diffusion des matchs maudits. On s'en fout, on s'en fout pas.
Moi, je m'en fous pas.
Moi non plus, je m'en fous pas. On s'en fout pas aussi.
Elina ?
Alors moi, je m'en fous pas parce que alors là, quand j'ai lu ça, en plus, j'ai vu comment il faut faire, bruit, je me dis, mais c'est quoi ça ? Mais pour moi, c'est des ayatollahs, quoi. Je vais te dire, bientôt, ils vont toquer à ma porte, ils vont... Non mais
ils vont te couper ta télé, ouais.
Et on marche sur la tête, quoi.
Mourad ?
Ce qui est insupportable, c'est... Alors, même si on peut... Si, je vais pas défendre l'État du Qatar, mais que des gens décident que leur avis, ils l'imposent aux autres. Voilà. Ils décident que, dès le début, ils ont raison et c'est comme ça qu'il faut faire. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, si j'ai envie de regarder un match de foot, je le regarde, même s'il se passe au Qatar.
Si
toi, tu n'es pas d'accord, je t'emmerde. Voilà, c'est clair.
Et puis si eux n'ont pas envie, ils ne le regardent pas.
Et voilà.
Thomas.
Ouais, je trouve ça contre-productif. Autant je pense que l'information, la transparence sur la construction des stades, et dans tous les pays, il faudrait l'avoir, ça, les droits des travailleurs,
pas seulement
etc.
Qu'on sait le Qatar.
Voilà, exactement. Pas à géométrie variable sur tous les pays. C'est important, comme ça tu sais. Dans quoi tu t'engages quand tu consommes le produit, mais de là à l'imposer comme ça, et encore une fois, on reste toujours sur embêter le consommateur, lui imposer un truc, et je pense que c'est contre-productif. Normalement, la Coupe du Monde, c'est quelque chose de populaire, que les gens partagent, c'est bien qu'ils aient de l'information, et ils font ça dans leur âme et conscience, mais de là à leur imposer...
Non mais attends,
ils
sont capables de casser ta télé après, hein.
Non mais pendant les bars, ça crée un climat de tension.
Bien sûr.
C'est-à-dire que dans les bars où t'es là, t'es en train de regarder un match, t'es avec des amis, il y a une cinquantaine de personnes, puis t'as un petit malin qui se met à l'écart et qui éteint. Donc toi, tu rallumes. Derrière, il éteint encore, tu rallumes.
Après, c'est lui que t'éteins. Hein.
Bah c'est, non, mais c'est ça. C'est, ça bah, ça peut en venir en main.
Bah, il en prend, une gifle. Bah, oui, bon, pardon, moi, je n'irai pas pleurer sur le type qui s'en prendra une. Hein.
Et puis moi, j'aime bien, je ne vais pas défendre le Qatar, cette morale sur l'exploitation des travailleurs. Ils ont raison. Mais je rappelle, en France, il y a aussi une catégorie de travailleurs qui sont surexploités, qui s'appellent les stagiaires.
Bien sûr.
Oui, enfin.
Non, mais oui.
Je vois pas le lien.
L'important dans un combat écologique, économique, tout ce que tu veux, c'est de drainer le plus de gens. C'est pas de diviser les gens. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des divisions de plus en plus.
On est dans la radicalité.
Ouais, on est dans la radicalité.
Ça t'inquiète des œuvres d'art.
Et plutôt
aussi.
D'être dans un combat économique, on est dans un combat de plus en plus moral.
Oui, mais
et là, c'est problématique. Quand c'est la moralité qui prend le dessus, c'est la
problématique. Oui, parce que t'as toujours l'impression que ta morale est plus forte que les autres. Mais alors, si tu les écoutes, si je me fais l'avocat du diable, ils vont te dire, c'est la seule façon de se faire aujourd'hui, s'il n'y a pas de radicalité dans ce monde, finalement, les médias n'en parlent pas. La preuve, on en parle aujourd'hui.
Non,
c'est la même chose.
Qatar, hein,
ça va finir par des pains dans les bars.
Mais oui, mais c'est ça le problème. Tout le monde en a parlé, mais ils estiment que ce n'est pas suffisant et que le boycott devrait être général.
Ouais, moi, hier au soir, j'ai regardé Brésil-Serbie et leurs stades, ils sont plutôt beaux. Franchement, je suis désolé. Hein. Mais ils pètent leurs stades. Ils sont canons.
Ils
en plus, on a des supporters, tu as vu, qui sont propres.
Qui se comporte bien.
Qui se comporte bien, quoi. Tu vois, donc là-bas, ils se sentent obligés.
Parce qu'ils boivent pas d'alcool.
Oui,
ils se sentent obligés aussi, tu vois, d'avoir un comportement vertueux. Mmh. On continue, Anaïs.
Et puis, dans la rubrique Que sont-ils devenus ? Quelqu'un a-t-il des nouvelles d'Amélie de Montchalin ?
Recasé.
Ambassadrice de
l'OCDE. Je vous en donne, justement, effectivement, l'ancienne ministre de la fonction publique battue aux législatives, donc écartée du gouvernement, est devenue ambassadrice représentante permanente de la France auprès de l'OCDE. Alors après, Jean Castex à la RATP, Castaner à la tête du tunnel du Mont-Blanc et du port de Marseille. La belle reconversion, là encore, d'Amélie de Montchalin.
Et Bourguignon à Ligas.
On s'en fout, on s'en fout pas. Mourad.
On s'en fout pas.
Moi, je m'en fous pas. Hein. Non, pas
moi
du
non
tout.
Plus, on s'en fout pas.
Mourad.
Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'elle dit « j'ai envie de continuer à servir mon pays ». Non, t'as juste envie de continuer à être bien payé en foutant pas grand-chose.
Ouais.
C'est exactement plus tôt. Donc, il faut arrêter. Parce que si t'avais envie de continuer à servir ton pays, tu regardes d'abord si ton pays te le demande. Apparemment, t'as été battu, donc ton pays te le demande pas.
Ouais, en fait, il se recase. Il se recase entre copains. C'est trop facile. Castex, bon, le conseil d'administration, il dit « bon, on va vous mettre à la RATP ». Attends, Christophe Castaner, n'oublions pas que ces casseroles aux fesses ne sont pas réglées.
Quelles casseroles ?
Si, moi j'ai lu plein de trucs. les journalistes professionnels, ils doivent savoir là.
Ce qui est choquant, ce sont des perdants. Moi c'est ça qui me choque. Ouais, pas Castex. Moi je mettrais Castex. Castex, je le mettrais pas dans la même bande, si j'ose dire, parce que Castex, il a fait son temps à Matignon et puis il a le droit de travailler. Il est haut fonctionnaire.
Il y a d'autres gens aussi compétents que lui. Hein.
Bah oui, mais il est pas incompétent non plus. Il est haut fonctionnaire. Il a été formé pour ça. Elina, toi tu ne seras pas président de la RTP, moi non plus.
Pendant deux ans, je suis pas sûr qu'il ait pris le métro tous les jours.
C'est lui qui le soit, ça me semble pas complètement illogique. En revanche, ce qui est un peu le message qu'on envoie, c'est vous perdez, parce que c'est ça, Amélie Montchalin a perdu une élection, sinon elle serait ministre.
Christophe Castaner
a perdu, vous perdez, mais c'est qui perd gagne, c'est-à-dire on vous recase, et on vous recase à des postes, vous êtes même mieux payé, parce que ce poste-là, c'est 10 000 euros net, je crois, donc c'est mieux qu'un ministre. Donc c'est ça qui est, c'est le message qu'on envoie qui est pas bon.
Ouais, et puis que la politique, normalement, c'est un moment, la politique.
Oui, on fait chose.
De fait élire, ça, c'est pas un métier.
C'est pas
là, en fait, on voit
en
bien
plus, c'est des gens qui nous disent qu'il faut être agile, souple, changer de métier.
Et que pour eux, la politique,
tu vois, c'est pas parce qu'il est GG. C'est pas parce qu'il est GG, mais comment il s'appelle le GG là
Paris.
Ouais, ben lui, bravo.
Et en plus, c'était un bon ministre. Il a cherché son trou.
Un excellent ministre.
Voilà, et eux, je pense qu'ils ont tout à fait les diplômes.
On fait pas de la politique pour avoir une carrière professionnelle. Et là, la
Mais malheureusement, c'est un peu devenu ça.
Et là, c'est problématique.
C'est le biftec.
Voilà,
politique.
Tout à fait.
Voilà.
Sommes d'accord.
Tout à l'heure, à 11h, dans le À vous de choisir, justement, on vous propose deux sujets de discussion. L'entrée de l'IVG dans la Constitution, ça a été voté à l'Assemblée. Ou est-ce que vous voulez qu'on parle de l'ouverture de l'information judiciaire concernant McKinsey, les comptes de campagne d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est peut-être un nouveau scandale d'État? J'ai eu le juge Tourneur qui va enquêter là-dessus, qui va regarder. Donc, entrée de l'IVG dans la Constitution votée à l'Assemblée nationale ou les comptes de campagne d'Emmanuel Macron avec l'affaire McKinsey. Rendez-vous sur rmc.fr. Est-ce que c'est celui-là? C'est quoi ce
c'est Motus.
Ah bon?
Quand vous prenez la boule noire.
Vas-y, reviens. Mais ça existe toujours, Motus?
Je trouve pas ça terrible.
Je pense qu'on mourra,
c'est pas terrible.
C'est les trucs qui restent.
Dans un instant, on vous propose un tour de France du crack, la nouvelle drogue qui menace nos villes, un véritable fléau, parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré sur ce qui se passait au nord, à l'est de Paris. Vous avez entendu parler de la colline du crack, des jardins d'Éole, Elina en a souvent parlé, mais en fait, on n'a pas vu que le crack était en train de s'étendre partout en France. On va vous citer les villes. Vous venez en parler avec nous au 32-16, justement, de ce danger, le crack qui s'étend en France.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules.